Bougez, mais bougez en France. C'est l'heure de votre rendez-vous avec Christian Cailhol, ici présent dans les studios de Radio Galaxie. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Bon, à l'aube de cette journée, où va-t-on ce mois-ci?
Oh là, oui, à l'aube. Non, c'est pas aux aurores. Hein.
Ah.
Je vous emmène pour une rando à l'aube.
Ah, voilà.
Mais c'est-à-dire dans le Grand Est.
Oula,
pas
c'est...
aux aurores.
Ah mince.
Bon, alors on est dans l'aube, un petit peu en Côte d'Or et un petit peu dans Lyon. Voilà.
D'accord.
Et alors la rando, que vous verrez sur les images, la rando démarre de Rissé. Le village s'appelle Rissé et ça traverse des bois, des vignes. On part à la découverte des cadoles. On appelle ainsi, dans cette région, ces cabanes de pierre sèche érigées par les vignerons pour s'y abriter et se réchauffer. On pouvait aussi faire du feu. La fumée, elle sort par le trou central du toit. Et des pierres qui aussi pouvaient absorber la chaleur, qui la conservaient, qui pouvaient aussi la restituer la chaleur comme un four. Elles sont encore nombreuses, certaines intactes, d'autres envahies par les ronces. Parfois même, les vignerons eux-mêmes les ont démolies pour gagner quelques précieux mètres de terre pour la vigne. Pensez donc. Sur les coteaux de Rissé s'étend le plus grand terroir de toute la Champagne. Il y en a presque 900 hectares. Essentiellement du Pinot Noir et du Chardonnay. Et sur les coteaux les plus pentus et les plus ensoleillés, la production de ce qu'ils appelaient le vin royal, le vin préféré du roi soleil, soi-disant. Ici, terre de Champagne. Dans cette région du goût, si vous aimez suivre la route du Champagne, vous trouverez votre bonheur. Par contre, ne cherchez pas l'équivalent du Cirque de Gavarnie, du Mont-Saint-Michel ou de la grotte Chauvet. Il faudra élargir beaucoup le périmètre de vos déplacements pour vous satisfaire des envies touristiques, visiter quelques sites pittoresques ou classés. Commençons donc à nous déplacer. Alors, le département, il y a quelques belles halles en bois couvertes de tuiles. Par exemple, à Dissé, entièrement en bois, construite au XVIe siècle. La charpente est soutenue par quatre rangées de poteaux qui délimite trois nefs. Pour véritablement se rendre compte du volume, il faut aller dessous. C'était un lieu de rendez-vous de quatre grandes foires annuelles de l'aube, mais aussi un marché hebdomadaire. À l'origine seigneuriale, elle symbolisait le pouvoir et la puissance du duc de Pinay. Elle avait aussi, entre autres, un droit de mesurage, pour mesurer les grains, par exemple. Elle passera à la propriété de la commune en 1830. À moins de 10 km, voici les lacs de la forêt d'Orient. Dans cette région de ruisseaux et d'étangs, trois grands lacs ont été construits sur 5000 hectares, donc artificiels. Suite aux crues de 1910, de 1924 et de la sécheresse de 1921, il a été décidé de réguler le cours de la Seine en atténuant les risques d'inondation dans le bassin parisien, de maintenir en été un niveau d'eau suffisant pour assurer les besoins de la capitale en navigation jusqu'à la mer. Ce projet concerna essentiellement la Seine, mais aussi ses principaux affluents, Lyon, la Marne et l'Aube, sur lesquels une série d'ouvrages furent construits dans les années 30. En 1966, le lac d'Orient est mis en eau. Le dispositif est complété par la mise en eau des lacs Temple et Amance, sur l'Aube. Ces chantiers ont été à leur époque les plus gros terrassements de France. À Brevonne, il a été réalisé une digue de 10 km de long pour une hauteur de 22 mètres et une largeur à son pied de 165 mètres.
Mais c'est énorme.
Ah oui, absolument. Oui, absolument énorme. Le plus grand chantier de France à ce moment-là. Le lac d'Orient et le lac d'Amance sont réservés aux activités nautiques. Par contre, le lac Temple est une réserve naturelle nationale pour la pêche et la faune. Autour du parc naturel régional, qui totalise plus de 80 000 hectares, il est dénombré une centaine d'étangs privés. C'est un site de passage obligatoire de milliers d'oiseaux migrateurs en provenance du nord, en route vers l'Afrique. On peut ainsi les observer. Des milliers d'oiseaux hivernent, canards, oies, grues cendrées, cygnes, faucons, cigogne noire, grand cormoran, et aussi le pigargue à queue blanche. C'est ici son unique lieu d'hivernage régulier en France. Ce sont des lieux de renom international pour les ornithologues. Si l'Aube ne propose pas un tourisme des plus extraordinaires, le département ne manque pas de personnages célèbres ou d'autres parfaitement inconnus, méritant un peu de reconnaissance, et qu'on ne les oublie pas complètement. Donc je vais vous proposer quelques personnalités, certaines connues, je l'ai dit. Jacques Danton, révolutionnaire acharné qui vota la mort de Louis XVI, et qui lui aussi suivra le même chemin puisqu'il périt sur l'échafaud en 1794 à l'âge de 35 ans. Claude Denis, le premier fontainier du roi du château de Versailles. C'est déjà mémorable, mais ce qui est plus intéressant, c'est que son deuxième fils, Jean-Baptiste, on peut dire qu'il a introduit en France les préliminaires de la transfusion sanguine. On était en 1667. Pour la première fois, il a réalisé une opération dangereuse entre un agneau et un homme affaibli, après un traitement de 20 saignées successives, qui devait soi-disant corriger son état mental. L'amélioration fut, paraît-il, spectaculaire. Par la suite, Denis réalisa 4 nouvelles transfusions. Un mourut rapidement, le second survit mais après une grave crise meurt, et les deux derniers survivent. On peut le considérer comme un précurseur. Par la suite, c'est pas lui mais d'autres vont découvrir le globule rouge. Peu après, 1674, donc quelques années après, on découvre le globule rouge. La première transfusion homme à homme ne sera faite qu'en 1818. Puis, on a découvert les groupes sanguins A, B et O, qui sont découverts par Karl Landsteiner au début, cette fois, du XXe siècle. Ensuite, il y a eu comme personnage célèbre Édouard Herriot. Alors là, c'est une figure emblématique de la République, plusieurs fois député, ministre, président du Conseil, président de l'Assemblée nationale, et décédé en 1957. Moins connu, l'abbé de l'Épée, un curé. Pourtant, il est mondialement connu. Mais qui pourrait donner la raison? Et pourquoi? J'explique. Il naît en 1712 à Versailles. Il fait de brillantes études d'avocat, puis étudie la théologie. Il sera nommé dans une petite cure, non loin de Troyes, mais il abandonnera rapidement le ministère en gardant son titre d'abbé. Il est mis en contact, par hasard, avec des enfants sourds et il comprend l'enjeu de la langue virtuelle pour communiquer. Il étudie les signes déjà utilisés, les coordonne, les enrichit. Il développe ainsi une langue universelle destinée à tous les malentendants qui sera enseignée dans l'école qu'il fonde pour sourds et muets. Il va y consacrer tout son patrimoine. Il recevra des dotations de Louis XVI, de l'empereur Joseph, de l'impératrice Catherine de Russie, qui lui envoie aussi des éducateurs à former. Sa méthode va se propager dans toute l'Europe. Des institutions s'ouvrent en France. La première institution nationale, elle est gratuite. Elle est créée en 1790. Et l'abbé est officiellement reconnu comme bienfaiteur de l'humanité. Respect. Il a une statue à l'intérieur de la cour d'honneur de l'Institut national des jeunes sourds de Paris. Il demeure très vénéré dans le milieu sourd. Ça dépasse de loin les frontières françaises. Voilà, l'abbé de l'Épée. À retenir son nom. Jacques Pantaléon, né à Troyes en 1185, il fera des études de théologie et va attirer les foules lorsqu'il se met à prêcher. Il gravit toutes les fonctions sacerdotales. Il s'illustre lors de missions à l'étranger, en particulier en Prusse, en Pologne, en Slovénie, en Poméranie. En 1255, pour service rendu, il est consacré archevêque de Jérusalem avec le titre Légat pour toute la Terre Sainte. À la mort du pape, en 1261, il est élu et devient Urbain IV. Il est contemporain de Louis XI. Louis-Augustin Prévost, naquit à Troyes en 1796. Il apprendra sans aucune difficulté 40 langues, avec une prédilection pour le chinois, mais aussi tous les idiomes d'Europe, d'Asie, de Polynésie, le latin, le grec, le celtique, le slave. Sa méthode pour apprendre une langue étrangère, lire avec attention une traduction de la Bible dans la langue qu'il ne connaît pas. C'est tout simple, voilà, il n'y a qu'à essayer, il n'y a qu'à le faire.
Ben oui, tout simplement.
Ouais. Tout simplement. Et puis, dans les personnalités, Pierre-Auguste Renoir, un des plus grands peintres impressionnistes, peut être considéré comme audois par les nombreux séjours qu'il passe dans le département, puisque c'est le pays de sa femme et celui de son modèle préféré, Gabriel Renard. Quelqu'un d'autre, le baron Louis-Jacques Thénard, né en 1777, dans une famille modeste de paysans avec 7 enfants. Détrompez-vous, le titre baron ne lui vient pas de la naissance. Il lui sera offert par Charles X en 1825. Enfant doué, il sera étudiant pauvre. Il finira par obtenir une place de garçon de laboratoire, où il apprend à manier les éprouvettes et le matériel de chimie. Il expérimente tout ce qui est à sa disposition et tout ce qu'il peut. La bile, la sueur, le sucre, l'huile, le bore, le potassium et le sodium. Au cours des années, il fera des centaines d'études et il publiera l'essentiel de ses travaux dans 2 ouvrages magistraux qui, pendant 1 siècle, seront utilisés aussi bien par les enseignants que par les étudiants et les chercheurs de tous les pays. En 1818, il découvre l'eau oxygénée. À 27 ans, il est admis à enseigner au Collège de France. À 32 ans, il est professeur de chimie en Sorbonne. À 33 ans, à Polytechnique. Il a publié des centaines de mémoires scientifiques. Il a formé quelques 40 000 élèves. Sa notoriété a franchi les frontières. Membre permanent de 20 académies et sociétés savantes dans des dizaines de pays d'Europe. Il décède en 1857. Pensez pas qu'il mérite notre respect et un petit mot dans cette émission pour pas l'oublier complètement.
Oui, tout à fait.
Il s'appelle le baron Louis-Jacques Thénard. Déplaçons-nous tout près, mais dans le département voisin, la Côte d'Or, à Châtillon-sur-Seine. La Seine, bien sûr. Mais vous seriez étonné de voir ce simple ruisseau grossi par la Douille ou Douix, un affluent sensiblement de même débit, mais même parfois supérieur. La Douix donc sort d'une résurgence vauclusienne qui émerge au pied d'une falaise tapissée de verdure, formant une belle vasque idyllique en pleine ville. Un cadre enchanteur qui incite à l'exploration.
Et ce que tu as fait d'ailleurs.
Exactement. Alors, regardez la vidéo, vous verrez, j'ai même droné. Et c'est une très très belle vasque, avec des nénuphars et les poissons, quelques rochers. Et là, ça a été mon baptême de plongée s'il faut. C'était il y a 40 ans. Le jour venu, la rivière est en crue. On verra bien. Je suis initié par mon copain Xavier. Nous nageons entre les algues, les canards, les poissons, jusqu'au porche. Après, un court passage horizontal. L'eau remonte d'une diaclase verticale, de faible dimension en largeur, avec une telle force que le courant fait tournoyer des galets gros comme le poing au-dessus de l'ouverture. Un passage rétréci au bas de la diaclase, puis à 18 mètres, une galerie débouche dans une petite salle. Il faut ensuite remonter de quelques mètres pour franchir un passage réduit d'où arrive toute l'eau avec violence. Difficile de s'approcher avec ce courant, malgré tous nos efforts. Face au courant, les détendeurs se mettent en débit constant, laissant fuir notre air. Le masque ne tient pas en place. On tente malgré tout de franchir comme on peut en prenant un peu d'élan, en s'accrochant au bord, mais rien n'y fait. On doit se résoudre à faire demi-tour. Avec ce courant, on remonte comme des bouchons. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Il faudra pourtant faire un petit palier de décompression. Et je ne connaîtrai pas la suite, puisque je n'y suis jamais revu, j'ai jamais remis les palmes. Ça fut malgré tout un très bon début. Alors pour la suite, pour savoir, je me suis renseigné, on n'a pas raté grand-chose. Ça se développe sur 200 mètres et ça se termine sur une trémie qui bloque toute la galerie. Seul le courant arrive à passer.
Bravo, jeune homme.
Voilà, souvenir, recuerdo. Merci. Alors toujours à Châtillon-sur-Seine, une histoire cette fois de vase, mais pas la vase qu'on s'enfonce, le vase de Vix. À l'intérieur d'une étrange chambre funéraire datée de 500 ans avant Jésus-Christ, un vase de bronze, richement orné, de 208 kilos, est découvert par hasard en 1953. C'est la sépulture de la dame de Vix qui était creusée dans le sol, protégée par un tumulus, aujourd'hui disparu. Elle reposait sur la caisse d'un char d'apparat, à 4 roues, couverte de ses bijoux, en bronze grec et étrusque, mais aussi d'ambre originaire de Baltique, entourée de vaisselles de bronze, de céramique et d'argent. Certainement une princesse gauloise jeune 35-40 ans, qui portait autour du cou un torque d'or, c'est-à-dire un collier, de 480 grammes, et aux chevilles des anneaux, aux poignets des bracelets. Ce vase ou cratère était très important, pouvait contenir jusqu'à 1100 litres de vin. C'est la pièce maîtresse de ce trésor. Ce vase est l'œuvre d'un atelier grec du 6e siècle avant Jésus-Christ, installé dans le sud de l'Italie et qui témoigne de la richesse des échanges à cette époque. Dans cette sépulture, d'une richesse inouïe, ce trésor était laissé à la garde d'une princesse, grande prêtresse, aristocrate ou même chef. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. On n'en sait pas plus. Pour les fans d'histoire, à quelques kilomètres de là se trouve le site de la bataille d'Alésia, qui a opposé la coalition gauloise à l'armée romaine, commandée par Jules César, en 52 avant Jésus-Christ. Au XVIIIe siècle, va naître un mythe. L'idée se répand que la noblesse descend des Francs, alors que le peuple, lui, descend des Gaulois. Vercingétorix devint le premier héros de notre histoire de France. Et par conséquent, on attribue aux Gaulois les dolmens, les menhirs, qui datent de la fin du Néolithique, ainsi que les armes de l'âge du bronze. En ces années-là, des voix s'élèvent pour honorer ce pauvre chef. Il faut lui élever une statue monumentale à Vercingétorix. Alors Napoléon III en fait une entreprise personnelle. Ce sera au centre d'un des principaux épisodes du siège par César en 52 qu'il va la faire édifier. Au bord du plateau, la statue fera face aux assaillants, dominant un espace aujourd'hui boisé, contrairement à l'époque où elle était visible de loin. Elle est l'œuvre d'Aimé Millet, achevée en 1865. Millet, certainement on l'a oublié, mais si je vous dis qu'il est l'auteur des célèbres tableaux Les Glaneuses et de l'Angélus, vous voyez maintenant ? Alors cette statue, elle est faite de tôle de cuivre battue et rivée sur une armature en acier. Elle est d'une hauteur de 6,60 m posée sur un socle en granit du Morvan. Cette statue comporte des anachronismes. Les armes, ce sont des copies d'armes du bronze. Les brais de Vercingétorix, lacés autour des jambes, ça date du Moyen-Âge. La statue, donc, a ses anachronismes. La statue ne pouvait pas voyager couchée pour des raisons de sécurité. Elle fera donc depuis Paris le voyage debout sur un solide chariot tiré par 6 robustes chevaux. L'attitude de Vercingétorix sur la statue, une attitude morne de résignation suivant la défaite, ne provoquera pas le grand enthousiasme. Ce sentiment, en contradiction avec la déclaration conquérante de Napoléon III, inscrite sur le socle, la Gaule unie formant une seule nation animée d'un même esprit, peut défier l'univers. Donc, ce malaise fera d'elle une œuvre qui ne sera jamais inaugurée. Après la défaite en 1870, un sentiment de revanche contre la Prusse naît en France. Et dans cet esprit, Vercingétorix devient le premier résistant. Sentiment renouvelé aussi en 1947. Et Alésia devient un lieu de pèlerinage patriotique. Elle sera classée monument historique uniquement en 2014. C'est très récent. Cette même fièvre du cocorico s'était propagée à l'époque chez nos voisins allemands, qui ont eux aussi érigé en 1875, sur un lieu de bataille, dans une forêt, une statue là où un chef germain, Arminius, avait anéanti 3 légions romaines en 9 après Jésus-Christ. Et là, c'est pas la même échelle. Une œuvre colossale et agressive de 26 mètres de hauteur et 53 mètres avec son socle. Beaucoup plus ambitieuse et défiant notre héros national. Avant de conclure l'émission, je vous propose de sortir des sentiers battus, comme j'aime bien le faire, à la découverte d'un artiste extraordinaire. Alors, on sort de l'Aube, mais nous allons dans Lyon, c'est tout proche. Et puis, vous ne le regretterez pas. Je vous amène à la Fabuloserie, rien que le nom.
Quesaco.
La Fabuloserie, imaginons. L'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, une sommité. Dirigeant officiellement de très sérieuses constructions ou restaurations d'État. Fréquentant le plus haut gratin dans les sphères parisiennes, en semaine, et qui va se réfugier les week-ends en pleine campagne pour bricoler avec de la récupération des personnages disproportionnés, bedonnants, grotesque, très exhibitionniste, qu'il appelait les Turbulents. Ce Dr Jekyll en semaine et Mr Hyde le reste du temps avait pour nom Alain Bourbonnais, né en 1925. Il était tombé, sans le savoir comme beaucoup d'autres, dans l'art brut. D'un côté, dans son délire, il va continuer à produire et d'un autre côté, il va prospecter et rassembler des productions d'un grand nombre d'artistes inconnus ayant des créations proches de sa vision de l'art singulier. Art singulier, c'était le titre d'une de ses expositions à Paris qui sera visitée par 200 000 personnes en quelques mois. Alain Bourbonnais employait aussi le titre d'art hors les normes. À partir de 1983, il expose dans sa maison de campagne ses propres créations, mais aussi toutes les œuvres fabuleuses qu'il a faites siennes. Ce sera la fabuloserie, un musée, un parc, et surtout, au bout de l'étang, le manège du Petit Pierre. C'est un mécano de poésie. Petit Pierre était lourdement handicapé. Il a imaginé et créé cet incroyable et merveilleux manège entièrement fait de ses mains. Tout s'anime. Vaches, avions, danseurs, wagonnets. Un seul moteur, des dizaines de mètres de courroie qui anime en tous sens et jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Un décor simple du retour à l'enfance et celui d'une poésie attendrissante. Maintenant donc, je vous invite à regarder les images de ma vidéo ou d'autres surprises. Alors, le site Radio Galaxie, bien sûr, mais Rando VTT Vidéo. Mais d'autres surprises vous y attendent. L'abbaye de Fontenay, les forges de Buffon, Tonnerre et la fameuse fosse d'Yonne, le château de Bussy-Rabutin. Ainsi se termine mon émission.
Et l'aquarelle de Nadine ?
Comme toujours, une aquarelle, une cadole dans la bois de Courteron, dans l'Aube. Voilà. Mais écoutez, à bientôt. Au mois prochain. Et puis, en attendant,
bouger.
Mais bouger en France, hein. Il y a tant à découvrir et tant à voir.
Oui, complètement. Sortez des chemins battus.
Exactement. De partout, dans toutes les directions de France.
Ah. Merci, Christian.
À bientôt.